info à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, le procès du général Norbert Dabira poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État est en cours depuis hier devant la cour criminelle de la capitale. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je suis devant la barre à cause d'un mensonge, a déclaré le général Norbert Dabira, ancien inspecteur des forces armées. Il est accusé d'avoir voulu recruter deux tireurs d'élite pour abattre l'avion du président Denis Sassou Nguesso. L'acte d'accusation évoque des conversations téléphoniques en novembre 2017 entre les généraux Dabira et Nyanga Ngatse Mbuala. Ce dernier, ancien combattant de l'unité d'élite chargée de la protection du président, est cité en qualité de témoin. La défense a évoqué l'immunité juridictionnelle de son client, qui a été élevé au rang de dignitaire en 2001. La cour a rejeté cette demande. Le général Dabira a été arrêté en janvier 2018. Son procès intervient 4 jours après celui du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. La défense de Mokoko a annoncé lundi son intention de saisir les juridictions internationales. Un autre candidat à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, arrêté lui aussi en janvier 2017 pour atteinte à la sécurité de l'État, attend la date de son procès.
Au Cameroun, des sanctions pour violation des droits humains pourraient être prises à l'encontre de certains gendarmes déployés en zone anglophone. C'est ce qu'a annoncé mardi Joseph Bétia Somo, le ministre camerounais délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Les faits reprochés aux gendarmes ont eu lieu lors de l'interpellation d'un suspect impliqué dans l'assassinat de membres des forces de défense et de sécurité camerounaises. Précision de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Les gendarmes en question sont auteurs d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et dans laquelle un homme apparaît ligoté, face contre sol, gisant dans du sang, et une hautboueuse recevant par ailleurs d'incessants coups de machette. La scène se déroule dans l'enceinte d'une brigade de gendarmerie en zone anglophone. L'homme ainsi malmené se nomme Tchoboyi Alphonse Tatia, présenté comme le commandant de l'Ambazonia Defense Forces, un groupe d'hommes armés qui combat l'armée régulière dans les deux zones anglophones du Cameroun. Interpellé le week-end dernier, Tchoboyi Alphonse alias Général était activement recherché depuis plusieurs semaines, selon les sources de sécurité, pour notamment violence contre les populations. Seule fausse note, son interpellation a été accompagnée d'agissements contraires au respect des droits humains d'au moins 4 gendarmes que l'on peut apercevoir sur la vidéo. Ces gendarmes seront sanctionnés après identification, mentionne le communiqué du ministère de la Défense. Ce n'est pas la première fois que des cas de violation des droits humains sont retenus contre les forces de défense et de sécurité camerounaises déployées en zone anglophone. Le 7 mai dernier, le général commandant des troupes dans la région du Sud-Ouest avait été limogé. Yaoundé, Emmanuel Jounta, VOA Afrique.
Au Tchad, les heures de travail passeront de 37 à 40 heures. C'est une injonction du président Idriss Déby Itno qui va contraindre les travailleurs à, je cite, « une obligation de résultat ». Mais pour Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, le problème de l'administration tchadienne est ailleurs. On l'écoute.
Les nominations à des postes de responsabilité sont des nominations politiques. Si ce n'est pas politique, c'est basé sur le népotisme. Si ce n'est pas le népotisme, c'est la corruption. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui ne peuvent pas donner un rendement important. Les gens sont parfois dans l'obscurité. Ils sont dans 45 degrés. Autant d'éléments qui nous amènent à dire simplement à M. Déby, avec ces gens-là, même s'ils donnent 50 heures, il n'y aura pas un rendement. Aujourd'hui, le problème réside dans l'organisation du travail. Ce n'est pas le problème de nombre.
Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad. Contentieux territorial entre le Soudan et le Soudan du Sud, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité mardi de prolonger jusqu'à la mi-novembre sa mission de paix fisnois à Abyei, région riche en pétrole, disputée entre les deux pays voisins, en leur demandant de nouveaux efforts pour sa démilitarisation. L'avenir de la ville d'Abyei et de sa région, environ 100 000 habitants, reste en suspens depuis l'accord de paix de 2005 qui a mis fin à 2 décennies de guerre civile au Soudan et s'est traduit sous l'impulsion des États-Unis par la création en 2011 du Soudan du Sud. La force fisnoise compte quelque 4 500 casques bleus.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Niger, le gouvernement nigérien a annoncé ce mercredi la réouverture du campus universitaire de Niamey, le plus important du pays, fermé depuis le 18 avril après des troubles. La décision de rouvrir le campus intervient après la levée lundi d'une grève illimitée des étudiants, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, Yaouza Sadissou, sur une télévision locale. Rappelons que l'USN, l'Union des scolaires nigériens, un syndicat qui recrute du primaire jusqu'à l'université, avait lancé cette grève illimitée le 20 avril pour exiger l'annulation de l'exclusion en mars de 5 étudiants, la réouverture du campus de Niamey et l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'université. Et puis au Sénégal, retour au calme dans les deux principales universités du pays après des violences mardi qui ont coûté la vie à un étudiant. L'intéressé a été tué par balle lors de heurts entre étudiants et forces de sécurité à l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans le nord du pays. À Dakar, les étudiants de l'université avaient bloqué les deux principales avenues menant au centre-ville. Les étudiants sénégalais protestent depuis plusieurs jours contre le non-paiement des bourses, nous dit notre correspondant sur place, Sedina Abagay.
Un mort, plus d'une vingtaine de blessés, dont 18 gendarmes, des bâtiments administratifs brûlés, la maison du ministre de l'Enseignement supérieur saccagée, des scènes de meute d'une violence inouïe dans les espaces universitaires. Dakar et Saint-Louis ont subi la furie des étudiants. Tout est parti d'une réquisition du recteur de l'université Gaston Berger visant à sécuriser les restaurants universitaires après le renouvellement par la coordination des étudiants de Saint-Louis d'un mot d'ordre de grève de 48 heures. Ces derniers avaient décrété des journées sans ticket qui consistent à se restaurer gratuitement, une manière pour eux de protester contre le retard du paiement de leur bourse. Les gendarmes déployés au sein du campus universitaire ont fait face aux étudiants qui ont usé de projectiles pour répondre aux jets de grenades lacrymogènes. Lors de cette confrontation, les forces de l'ordre ont usé de leur arme, tuant un étudiant et blessant grièvement un autre. Dès l'annonce de la mort de leur camarade à Saint-Louis, les étudiants de l'Université de Dakar ont investi la rue, bloquant les deux principales avenues menant au centre-ville. S'en est suivi plusieurs heures d'affrontements et de saccages contre les forces de l'ordre. De son côté, le syndicat autonome des enseignants du supérieur a décrété 48 heures de grève pour manifester sa solidarité à l'endroit des étudiants du Sénégal. Pour calmer les esprits, le gouvernement a procédé au paiement des bourses quelques heures après ces événements dramatiques. À Dakar, Sidina Abagay pour VOA Afrique.
Gambie, l'ex-président Yahya Jammeh mis en cause dans le meurtre de dizaines de migrants ouest-africains. Ces violences qui remontent à juillet 2005 visaient des migrants clandestins, 44 Ghanéens ainsi que plusieurs Nigériens, Sénégalais et Togolais, arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Les intéressés étaient soupçonnés d'être des mercenaires venus renverser Yahya Jammeh, selon un communiqué de Human Rights Watch et de l'ONG Trial, qui s'appuie sur des entretiens menés depuis deux ans avec une trentaine d'anciens responsables de la sécurité gambienne. L'ouverture d'une enquête par les autorités ghanéennes pourrait déboucher sur une demande d'extradition de l'ex-président gambien qui a cherché refuge en Guinée équatoriale après sa défaite au présidentiel de 2016. Au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, le leader chiite nigérian emprisonné depuis plus de deux ans, a comparu mardi devant un tribunal d'Abuja. L'audience portait sur les affrontements meurtriers de 2015 entre ses partisans et l'armée. Marie Benson.
C'est seulement la deuxième fois que Zakzaki, chef du mouvement islamique du Nigeria, apparaissait en public depuis son arrestation en décembre 2015. Sa femme et lui sont incarcérés à Abuja pour homicide volontaire, attroupement illégal et trouble à l'ordre public. Leur état de santé semble s'être dégradé. L'avocat des accusés, qui n'avait jamais été autorisé à les rencontrer, a pu parler quelques minutes avec Ibrahim Zakzaki. L'audience s'est tenue à huis clos, sous bonne garde des forces de sécurité. En l'absence d'autres accusés, le procès d'Ibrahim Zakzaki a été ajourné au 21 juin prochain. Fin 2016, le tribunal fédéral avait autorisé sa libération, mais les autorités nigérianes l'ont maintenu en détention. Ibrahim Zakzaki souhaitait établir un État islamique chiite au Nigeria. Ces dernières semaines, ses partisans ont organisé de nombreuses manifestations pour réclamer sa libération.
Actualité américaine pour terminer, le ministre américain de la Défense Jim Mattis a affirmé mardi respecter le résultat des dernières élections irakiennes malgré le succès surprise du leader nationaliste chiite Mostada Sadr qui a combattu les troupes américaines pendant la guerre en Irak. La porte-parole du département d'État américain Heather Nauert a pour sa part assuré que les États-Unis pensent pouvoir continuer à avoir de bonnes relations avec le futur gouvernement irakien.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.